Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 28 décembre 2018, en direct de Washington, Jean-Roger Billon
et Michel Joseph.
Pour commencer, les titres.
Élection RDC J-2, Kinshasa a demandé le départ du représentant de l'Union européenne et la coalition Lamuka a lancé un appel à la grève générale aujourd'hui.
Docteur Mukwege, prix Nobel de la paix à son retour chez lui, a plaidé pour que le processus électoral en RDC sorte de l'impasse. Reportage à suivre dans cette édition.
Regain d'activité des djihadistes sur le continent. Boko Haram envahit 2 bases militaires dans le nord-est du Nigeria et au moins 10 soldats burkinabés ont été tués en 48 heures.
Ici aux États-Unis, les négociations entre démocrates et républicains ont échoué jeudi à mettre fin au shutdown, la paralysie partielle des administrations fédérales qui a mis des centaines de milliers de fonctionnaires au chômage forcé, va donc se prolonger au moins jusqu'à la semaine prochaine.
Ne manquez pas notre passeport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Les relations entre la RDC et l'Union européenne sont loin de s'améliorer. Hier, le chef de la diplomatie congolaise, Léonard Tché Okitundu, a donné 48 heures à l'Union européenne pour rappeler son chef de mission après le renouvellement des sanctions européennes contre 14 personnalités congolaises. Les explications de notre envoyé spécial à Kinshasa, Abdourahmane Dia.
C'est devant le corps diplomatique que le ministre Léonard Tché Okitundu a fait l'annonce. Il s'en est pris à ce qu'il appelle le comportement répréhensible du chef de mission, le Belge Bart Ouvry. Il explique aussi qu'il s'agit d'une mesure de réciprocité, car la RDC a plaidé à plusieurs reprises pour la levée ou la suspension des sanctions.
Ces sanctions, n'en déplaise au Conseil européen, violent le droit international, porte atteinte aux droits fondamentaux des personnalités concernées, au point qu'elles ont été condamnées par les instances régionales et sous-régionales du continent africain.
Le chef de la diplomatie congolaise a indiqué que la demande de rappel du représentant européen n'est qu'une première mesure et que d'autres seront annoncées progressivement. Léonard Tché Okitundu en a profité pour lancer une mise en garde aux diplomates.
Je saisis cette opportunité pour rappeler le corps diplomatique à l'observance scrupuleuse des prescrits pertinents de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
Le candidat du pouvoir à la présidentielle de dimanche, Emmanuel Ramazani Shadari, fait partie des personnalités visées par ces sanctions européennes renouvelées le 10 décembre dernier. Abdourahmane Dia, VOA Afrique, Kinshasa.
Plus que 2 jours donc pour aller aux urnes en RDC ce dimanche 30 décembre, mais la coalition autour du candidat d'opposition Martin Fayoulou a appelé à une journée ville morte ce vendredi dans tout le pays pour protester contre le report partiel des élections à Beni, Boutembo et Yumbi. La commission électorale nationale indépendante CENI vient de dépasser une ligne rouge, déclare la coalition Lamuka, qui veut dire Réveille-toi en Lingala, soutenue par 2 poids lourds de l'opposition au président Joseph Kabila, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. La coalition exige que la commission électorale retire notamment instamment cette décision injustifiée. Nous reviendrons sur cet appel à la grève générale dans la seconde partie de cette édition avec nos confrères de Top Congo FM.
À Madagascar, Andre Rajoel a été déclaré hier vainqueur à la présidentielle. Il revient au sommet de l'État à tout juste 44 ans en battant au second tour son grand rival Marc Ravalomanana. Idriss Fall revient sur le parcours du vainqueur de la présidentielle malgache.
Le petit garçon, comme il est surnommé, va remonter sur le trône. Il est surnommé aussi TGV pour son côté fonceur. Apparu comme une météorite en 2007, jeune patron de société publicitaire, il crée la surprise en étant élu dès le premier tour maire d'Antananarivo, la capitale. Grâce à son sens de la communication et au soutien de sa propre radio-télévision Viva, il s'impose rapidement comme le principal opposant à Marc Ravalomanana, président à l'époque. Ses nombreux partisans défient ouvertement Ravalomanana et finissent avec la complicité des militaires par le chasser du pouvoir. Interdit de candidature à la présidentielle de 2013, Ange Rajoel soutient son ancien ministre des Finances, Eri Rajoanan Manpian, qui l'emporte. Mais très vite, les deux hommes se brouillent. Radjoel avait promis de battre son ancien protégé dans les urnes et aussi reprendre sa revanche sur Ravalomanan. Il vient de gagner ses paris. Il dit vouloir redonner espoir aux Malgaches et a 5 ans pour le prouver.
Le groupe djihadiste Boko Haram a attaqué 2 bases militaires dans le nord-est du Nigeria dans la nuit de mercredi à jeudi dans le cadre d'une offensive pour le contrôle de la ville stratégique de Baga sur le lac Tchad. Des combattants à bord de plusieurs véhicules ont pris d'assaut Baga et une fusillade intense a éclaté entre eux et les militaires et un poste de la force multinationale mixte qui accueille des unités du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Cameroun. Boko Haram a à plusieurs reprises attaqué ces derniers mois des bases militaires dans la région.
La fin d'année tourne au cauchemar pour les militaires burkinabés. Plus d'une dizaine de soldats ont été tués en seulement 2 jours dans des attaques terroristes. Le Burkina Faso est devenu la cible privilégiée des combattants djihadistes. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Au moins 10 gendarmes ont été tués jeudi dans une embuscade à Toini, une localité située à une 50 kilomètres au nord de Tougan, dans la région de la boucle du Moun, selon les services de sécurité burkinabè. Cette patrouille se rendait pour des constatations d'usage d'un incendie provoqué par un groupe armé non identifié à l'école primaire publique de Loroni, localité située à une 20 kilomètres de Toini. Leur convoi est tombé dans une embuscade à l'entrée du dit village, indique un communiqué du ministère de la Défense dans la soirée. La veille mercredi, un policier est décédé dans l'attaque du poste de police de Solan, situé à 12 km de Seba, dans la province du Yaga, région du Sahel. On fait savoir des sources sécuritaires. Le week-end dernier, un véhicule militaire a sauté sur un engin explosif artisanal posé par des terroristes présumés sur l'axe Fadapama, dans l'est du pays. 3 militaires ont péri dans cette attaque. Les attaques avec des engins improvisés ont débuté au mois d'août et se sont multipliées depuis, coûtant la vie à plus d'une 50aine de personnes. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Mali, la justice a condamné le directeur de publication du journal Le Pays à 6 mois de prison, dont 2 avec sursis, dans une affaire qui l'oppose à la Cour constitutionnelle. Les avocats de notre confrère vont faire appel de cette décision. Kassim Traoré nous en dit plus.
On se rappelle que ce journal, à l'approche de la présidentielle de cette année, écrivait dans ses colonnes que les membres de la Cour constitutionnelle avaient été soudoyés, monnayant 900 millions de francs CFA par le pouvoir en place. L'instance juridique avait alors convoqué en justice le journal Le Pays. Le verdict a été rendu hier au niveau du tribunal de la commune 5. Boubacar Yalkoué, directeur de publication du journal Le Pays, a été condamné nonobstant les irrégularités et de nombreuses exceptions soulevées par ses avocats. Boubacar Yalkoué entre en voie de condamnation avec 6 mois, dont 2 avec sursis. Les paiements du franc symbolique pour chacun des membres de la Cour constitutionnelle. Du côté de la corporation, on ne semble guère apprécier ce verdict. Boubacar Yalkoué, directeur de publication du journal Pays, n'a pas été arrêté sur place parce que le juge n'a pas ordonné de décerner un mandat lors de sa délibération sur condamnation. C'est pour cela que ses avocats ont décidé d'exercer leur droit de recours en faisant appel au niveau de la Cour d'appel. Bamako, Kassim Traoré, de Ouaf.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Changer. Ici aux États-Unis, les négociations ont repris hier sans aucun signe de percée pour mettre fin au shutdown. La paralysie partielle des agences fédérales a mis des centaines de milliers de fonctionnaires au chômage forcé. Le point avec John Lindon.
Le président Donald Trump exige 5 milliards de dollars pour la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique afin de lutter contre l'immigration clandestine. Les démocrates refusent de le financer et proposent des fonds pour d'autres mesures de sécurité à la frontière. Depuis vendredi minuit, c'est l'impasse budgétaire. Quelques 400 000 agents fédéraux jugés essentiels sont obligés de travailler sans être payés pour l'instant. 400 000 autres employés sont mis au chômage forcé. Les négociations sont au point mort et le shutdown, le 3e de l'année, semble bien parti pour se prolonger. Les démocrates prendront le contrôle de la Chambre des représentants le 3 janvier et les républicains garderont la majorité au Sénat, une situation qui rendra les marchandages encore plus difficiles. En attendant, même s'ils sont presque certains d'être payés rétroactivement, des milliers d'employés fédéraux font face à une fin de mois difficile.
Les Émirats arabes unis ont rouvert jeudi leur ambassade à Damas, nouveau signe d'un possible réchauffement des relations entre les pays arabes et le pouvoir syrien de Bachar al-Assad, et Bahreïn pourrait suivre prochainement. Et maintenant, la Minute Éco avec Nani Talani.
Le Burundi espère atteindre d'ici 2022 une production caféière de 30 000 tonnes grâce au projet d'appui à la compétitivité du secteur café financé par la Banque mondiale. Cette filière contribue pour plus de 2/3 des recettes d'exportation et procure des moyens de subsistance pour près du tiers de la population, d'après l'Institut de statistiques et d'études économiques du Burundi. En Égypte, l'inflation globale a ralenti, revenant de 17,7% en octobre contre 15,7% en novembre, alors que les prix des fruits et légumes ont diminué après 3 mois de hausse. L'inflation sous-jacente, qui exclut les produits alimentaires, a ralenti pour s'établir à 7,94% en novembre, son plus bas niveau depuis avril 2016. Le PIB a augmenté de 5,3% au cours de l'exercice clos en juin 2018, soit le taux le plus élevé en 10 ans. Terminons avec les experts qui prédisent un prix du pétrole de 50 à 53 dollars en 2019, ce qui est bien inférieur au sommet de 86 dollars depuis le début de l'année pour le Brent. Toutefois, les perspectives du secteur pétrolier ne sont pas aussi faibles qu'en 2016, année où la surabondance de l'offre s'est accumulée, car l'Organisation des pays exportateurs de pétrole tente cette fois de soutenir le marché. L'OPEP et ses alliés ont décidé plus tôt ce mois-ci de réduire leur production de 1,2 million de barils par jour en 2019, annulant ainsi la décision prise en juin de pomper davantage de pétrole.
À présent, la page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Jean-Roger, bonjour à tous.
L'Inter a été sanctionné pour les cris racistes proférés contre Kalidou Koulibaly.
L'Inter Milan va disputer 2 matchs à huis clos à San Siro comme sanction contre les cris racistes qui ont visé le défenseur sénégalais de Naples. L'annonce a été faite par l'instance disciplinaire de la Ligue italienne de football. Lors de ce match remporté 1-0 par l'Inter, l'international sénégalais a été la cible de cris de singe à plusieurs reprises, notamment au moment de son expulsion pour un deuxième carton jaune. Le même communiqué précise que Kalidou Koulibaly sera lui-même suspendu 2 matchs après son expulsion. La première journée de suspension est liée à une accumulation de cartons jaunes. La deuxième est justifiée par la Ligue par les applaudissements ironiques adressés par le joueur à l'arbitre. Mais déjà, après la rencontre, l'entraîneur de Naples s'est dit déçu. Écoutons Carlo Ancelotti.
Je n'étais pas en colère, mais déçu. Je suis allé vers l'arbitre pour lui demander ce qui s'est passé. Je crois que le carton rouge de Koulibaly a été déterminé par l'état d'esprit du joueur. Il a été insulté pendant tout le match. Nous avons demandé aux autorités d'intervenir, mais seulement des annonces ont été faites à l'endroit du public. Ils n'ont pas suspendu temporairement le match comme nous l'avions demandé. Pour moi, c'est ce qu'il fallait faire. Il est très inhabituel pour Koulibaly de faire ce geste, qui est un mauvais geste, mais l'état d'esprit du joueur n'était pas paisible et je pense que l'arbitre n'a pas tenu compte de tout cela.
Le maire de Milan dit avoir honte de l'attitude des fans locaux et a demandé pardon à Kalidou Koulibaly au nom de sa ville.
Sur le continent, Alexandre Song s'engage dans l'humanitaire.
Lui, l'international camerounais sociétaire du FC Sion en Suisse, est désormais supporter au profit du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il a reçu ce titre honorifique à Yaoundé. Que va-t-il faire concrètement en faveur de plus de 665 000 réfugiés recensés au Cameroun? Alexandre Song explique.
On a un planning qu'on doit essayer de bonifier pour 2019. Là, nous sommes en train de travailler dessus. On va essayer d'aller sur le terrain, partager, essayer de redonner un peu d'envie à ceux qui ont perdu un peu cette envie de donner du sourire, parce que vous savez, ils vivent des moments difficiles. Moi aussi, je viens de nulle part. Je n'aurais jamais imaginé que je serais ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc, moi, je suis prêt à donner de ma personne, je suis prêt à donner au-delà. Il n'y a pas seulement des livres.
Alexandre Song était au micro d'Emmanuel Jelentap, notre correspondant à Yaoundé.
Yacouba, on referme cette page d'espoir avec les résultats de la NBA. Jeudi nuit, Utah a perdu devant Philadelphie 97-114. Golden State a été surclassé par Portland 109-110. Sacramento a défait les Lakers de Los Angeles 117-116. Houston s'est imposé face à Boston 127-113. Et Milwaukee a défait New York 112-96.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vendredi 28 décembre 2018, de nouveau avec vous, Jean-Roger Villon. Nous passons maintenant à nos dossiers de ce jour. En RDC, la coalition Lamuka, qui porte la candidature de Martin Fayoulou à la présidentielle, appelle à une journée ville-morte sur toute l'étendue de la RDC. L'objectif est de contraindre la commission électorale à retirer sa décision de renvoyer au mois de mars les élections à Beni et Boutembo dans l'est du pays et Yumbi dans le sud-ouest. Cet appel qui intervient à deux jours des élections générales en RDC a suscité quelques réactions dans la capitale congolaise. Reportage Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La coalition Lamuka demande à tous les Congolais de refuser catégoriquement d'obéir à cette décision qui constitue un ordre manifestement illégal conformément à l'article 28 de la Constitution et lance un appel à une journée ville morte sur toute l'étendue de la République ce vendredi 28 décembre 2018.
C'est Pierre Lumbi, le directeur de campagne de Martin Fayoulou, qui a lu au nom de la coalition Lamuka cette déclaration appelant à une ville morte sur toute l'étendue de la RDC ce vendredi 28 décembre 2018. L'objectif est de dire non à la décision de la Commission électorale nationale indépendante de renvoyer en mars 2019 les élections à Beni, Beniville, Boutembo et Yumbi, décision dont Lamuka exige le retrait immédiat.
La coalition Lamuka exige que la CENI retire instantanément cette décision injustifiée et organise des élections sur toute l'étendue de la RDC sans aucune discrimination.
En réaction, quoique contre la décision de la CENI d'exclure les électeurs de ces quatre circonscriptions électorales, l'UDPS Tshisekedi, par son secrétaire général Jean-Marc Kabunda Kabund, se dit opposé à la démarche de Lamuka.
Ce report nous a fait très mal. Mais nous ne souscrirons jamais à une telle démarche parce que nous et Lamuka, nous ne poursuivons pas les mêmes objectifs. Mais plutôt, nos amis de Lamuka et du FCC poursuivent un même objectif. C'est la non-tenue des élections pour un dialogue qui débouchera sur une transition.
Au Front commun pour le Congo, la coalition au pouvoir, on qualifie cette démarche de non-crédible. Serge Kadima est l'un des porte-parole du candidat Emmanuel Ramazani Shadari.
Vous savez, les gens de Lamuka sont des gens qui n'ont jamais eu de position. Je suis convaincu qu'ils vont se rébuffer lorsqu'ils verront que le peuple congolais ne les croit plus, parce qu'ils ne sont plus crédibles. Vous savez, le peuple congolais a besoin d'une chose aujourd'hui, c'est les élections.
Entre avis favorable et totale désapprobation de cette démarche de la coalition Lamuka, les points de vue des Kinois interrogés par Top Congo FM sont également partagés autour de cet appel à une journée ville morte.
Nous nous apprêtons déjà à aller aux élections ce dimanche ici. Pour moi, je vois que c'est inutile de faire des marches.
Ils n'ont pas tort lorsqu'il s'agit de l'intérêt de la République pour exiger qu'il y ait élection sur toute l'étendue de la République.
À mon avis, c'est opportun parce que les gens de Beni, de Tembou et de Yumbi, ils ont le droit de voter.
Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Les élections à RDC ont été évoquées également lors du retour de Dr Denis Mukwege, co-lauréat du prix Nobel de la paix 2018, chez lui à Bukavu. La population est sortie massivement pour l'accueillir à l'aéroport de Kavumu, tout comme au terrain du collège Alpha Djiri, où il a prononcé un discours. Reportage Ernest Mouero.
C'est un retour bien remarqué au Sud-Kivu du docteur Denis Mukwege. Déjà à l'aéroport de Kavumu, en territoire de Kabari où son avion atterrit, des centaines de hommes et femmes ont fait des déplacements pour son accueil. Une fois au centre-ville de Bukavu, précisément dans la cour du collège Alpha Djiri, c'est une marée humaine qui a bravé la pluie. Le premier Nobel congolais les a remerciés de tout cœur pour cette marque d'attachement au sujet des élections en RDC. Denis Mukwege a entre autres déploré les reports intempestifs qui ne favorisent pas un climat de paix.
Dans le contexte politique actuel, malheureusement, l'urgence est de sauver le processus électoral qui est en impasse. Notre pays doit assumer leurs responsabilités.
La communion était parfaite, occasion pour Denis Mukwege d'échanger des chapitres pour réaffirmer son soutien à la femme, surtout celle survivante des violences sexuelles. Il a appelé les Congolais à s'approprier ce prix Nobel pour démontrer au monde que les Congolais en ont marre de la violence sous toutes ses formes, mais aspirent plutôt à la paix. Pour Elvis Mulamba, le retour de Mukwege avec ce prix Nobel apporte une lueur d'espoir pour les sans-voix.
Je suis très très heureux, je pense que c'est pour tous les Congolais. Cette arrivée de cet homme donne encore une lueur d'espoir pour espérer que le droit de l'homme soit respecté. Et du coup, on trouve que c'est le porte-parole de tous ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer dans ce régime de 17 ans de souffrance.
Moi, Bachouba Tignyezi de Videi a plus été marqué par le propos du docteur concernant l'impératif de réparation des victimes des violences sexuelles et le mécanisme de réconciliation.
Je suis personnellement très ravi que le docteur soit rentré avec ce prix Nobel de la paix. Dans son speech, je crois que le docteur est revenu et il revient toujours à cette étape de réparation. Toutes ces femmes qui ont été violées doivent avoir une réparation. En plus, la deuxième chose qu'il a dit, c'est la commission Vérité et Réconciliation.
Le coloréat du prix Nobel de la paix 2018 a promis de plaider pour qu'il y ait un fonds mondial pour la réparation des victimes des violences sexuelles dans les conflits à travers le monde. De Bukavu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Bukavu sur 97.4 FM.
La stérilité est considérée comme tabou dans plusieurs sociétés africaines. C'est le cas au Nigeria, où malgré le conservatisme religieux, de nombreuses agences proposent des mères porteuses aux couples qui peinent à concevoir un enfant. C'est un business en pleine expansion, comme nous l'explique Salwa Jafari.
Chaque matin, Toyin prépare ses enfants pour l'école. Une bénédiction à laquelle elle avait presque renoncé à croire il y a quelques années. Ses deux enfants sont nés à l'aide d'une mère porteuse indienne. 12 années de lutte contre le cauchemar des fibromes utérins l'ont amenée à opter pour cette solution. Aujourd'hui, elle souhaite donner cette même opportunité à des couples en difficulté. Toyin a ouvert son agence Precious Conceptions, Conception précieuse.
La maternité de substitution existe au Nigeria et lorsque vous le faites légalement, vous signez les documents nécessaires. Vous obtenez un avocat, vous contactez un organisme comme le nôtre qui vous guide tout au long du processus. Vous êtes en sécurité, l'hôpital vous donne le bébé directement.
Au Nigeria, il n'existe pas de loi qui régule la maternité de substitution. Ce n'est ni autorisé, ni interdit. Ada est mère porteuse, elle a reçu près de 5000 euros et un toit pendant sa grossesse en échange de ses services.
J'aurais donné ma vie pour avoir un chez-soi, parce qu'à ce moment-là, la cour allait jeter ma famille à la rue.
Dans un pays conservateur tel que le Nigeria, la maternité de substitution est désapprouvée par les chrétiens évangéliques et par les imams. Quant à l'infertilité, elle est souvent perçue comme une punition divine. Pourtant, le phénomène des mères porteuses est en plein essor.
Les chiffres des deux dernières années ont vraiment augmenté. Nous n'avons pas seulement des résidents du Nigeria, nous avons beaucoup de demandes de Nigérians vivant en Europe et de Nigérians vivant aux États-Unis.
Mais louer les services des mères porteuses n'est pas à la portée de toutes les bourses. Beaucoup se tournent vers l'adoption ou vers ce qu'on appelle ici les usines de bébés, où les enfants non désirés sont placés en adoption.
Thank you.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de l'éjaculation précoce. Selon la Société internationale de médecine sexuelle, c'est l'un des troubles sexuels les plus fréquents chez les hommes. Pour en parler, nous recevons comme invité le docteur Vangu Lutete. Il est sexologue et enseignant à Kinshasa, la capitale congolaise. Il nous expliquera comment faire quand on en souffre. Nous écouterons aussi le témoignage de Josué, une victime. Il nous racontera l'impact de ce dysfonctionnement dans sa vie. Nous avons aussi recueilli les réactions de quelques femmes. Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel. Ne manquez pas le rendez-vous.
Au Malawi, près de 10% de la population est porteuse du VIH et la majeure partie des nouvelles infections qui touchent les adolescentes. L'Alliance mondiale interconfessionnelle contre le sida et l'ONG Sentebale, une organisation caritative fondée par les familles royales britanniques et du Lesotho, ont lancé un programme de soutien aux filles dans les zones rurales avec comme objectif de les maintenir en bonne santé et à l'école. Reportage Lamek Massina, récit Yakuba Ouedraogo.
Ce sont là quelques-unes des 360 étudiantes qui fréquentent les clubs de filles de Mawa. Ces espaces ont été créés dans 9 écoles secondaires dans le district de Moulindji. Les statistiques montrent que beaucoup de ces filles ont quitté l'école pour cause de grossesse et mariage précoce. Lucie Muntali est coordinatrice du programme.
L'an dernier, nous avons eu plus de 26 élèves du secondaire qui ont abandonné les études et 80% d'entre eux étaient des filles. Certaines se sont mariées et d'autres sont tombées enceintes.
La moitié de ces filles se marient avant 18 ans et selon un rapport de l'ONU-SIDA, 70% d'entre elles souffrent des nouvelles infections liées au VIH. Lucie Muntali.
Étant donné que les filles âgées de 15 à 24 ans sont plus susceptibles de contracter le VIH, nous les aidons avec un soutien psychosocial pour nous assurer qu'elles restent à l'école et qu'elles soient en bonne santé.
Avec l'aide de leur mentor, en plus d'être instruites, ces filles apprennent à réfléchir sur leurs objectifs dans la vie. Loveness Sitima a déjà une idée sur son futur métier.
Je veux devenir infirmière. J'aime l'uniforme qu'elle porte. Mais surtout, je veux travailler à la maternité pour pouvoir aider les femmes.
Elude Dimézi pense que ces clubs sont des sources d'éducation pour les jeunes filles.
Quand une fille est instruite, elle respecte les droits des autres filles et les motive également.
Le travail de ces clubs est reconnu et salué par le gouvernement qui voit en cela un appui considérable à son propre programme de prise en charge de l'éducation des filles. Ces associations promotrices des droits de la jeune fille ont déjà mis en place des programmes similaires qui portent leurs fruits au Lesotho et au Botswana.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa. Me.
Voilà, le temps est venu de nous séparer en ce vendredi 28 décembre 2018. C'était Le Monde Aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Daryl Smith à la console, Michel Joseph pour la réalisation et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Jean-Roger Billon à ce micro. Nous émettons de Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.